Alors j'ai à nouveau des questions pour ceux qui veulent. Je m'excuse pour la qualité de l'impression, mais mon imprimante manifestement se commence à être fatiguée. Mais je pense que c'est à peu près lisible. Je vous invite à ouvrir votre Bible pour la deuxième partie du chapitre 11 et le début du chapitre 12 du livre des Juges. En arrivant la semaine dernière au chapitre 11, verset 11 du livre des Juges, nous avons déjà beaucoup appris grâce au juge sauveur, Jephté. À la fois sur l'attitude du peuple envers le Dieu de l'Alliance, et sur le caractère merveilleux du choix de ce même Dieu qui se porte sur l'homme rejeté, Jephté, l'homme rejeté. Il se porte sur l'homme rejeté, y compris dans le cas du Messie, rédempteur de l'humanité. Vous vous rappelez, Jephté nous signalait comme tout à nouveau que Jésus est la pierre rejetée par la main des ouvriers, pierre qui est devenue la pierre d'angle. Jephté nous a rappelé que c'est selon ses propres critères que Dieu choisit, et non pas selon des critères humains. Dieu nous a donc choisis de la même manière, glorieuse. Ce qui signifie que nous, ici présents à Cavaillon aujourd'hui, nous n'avons plus aucune raison de nous considérer rejetés ou de chercher à justifier notre propre rejet peut-être ou notre propre négligence du ministère auquel Dieu nous appelle, aussi humble soit-il. Pourtant, si je suis là encore aujourd'hui, c'est que Jephté n'a pas encore fini de nous apporter des leçons précieuses. Préparons-nous à la suite du récit du conflit entre Israël et Ammon en lisant un extrait du livre de Deutéronome. Je vous lirai quelques versets de Deutéronome 6, à partir du verset 20. Lorsque demain, ton fils te demandera que signifient ces déclarations, ces prescriptions, ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a commandées, tu diras à ton fils, nous étions esclaves du Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte à main forte. L'Éternel a opéré sous nos yeux des signes et des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre le Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses prescriptions et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie, comme il le fait aujourd'hui. Comme le disait le grand apologète Francis Schaeffer, Dieu n'est ni silencieux ni lointain. Au contraire, notre histoire vient de lui. Notre histoire le révèle à l'œuvre, siècle après siècle, année après année, jour après jour. Nous autres, chrétiens, disciples de Jésus-Christ, nous devons donc connaître cette histoire. Nous devons la prendre au sérieux, être capable d'en parler, afin de convaincre les ignorants, de faire taire les menteurs, d'éviter de nous laisser embobiner par de fausses explications, de fausses histoires. Ainsi donc, nous dit l'apôtre Paul cette fois-ci, dans les Éphésiens, chapitre 4, verset 14, « Ainsi donc, nous ne serons plus des enfants, flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. » C'est pourquoi je vous recommande à tous la lecture attentive de Juges chapitre 11, des versets 12 à 28. Nous n'allons pas le lire ensemble ce matin. C'est un long passage avec beaucoup de détails et le temps d'un message est compté. Nous allons lire d'autres passages pour finir l'histoire de Jephté. Mais vous, je vous recommande ce passage. Ces lectures, donc les versets 12 à 28, ne nous convaincra pas sans doute que Jephté avait fait de grandes études, se spécialisant dans l'histoire du peuple de Dieu. Mais elle nous montrera tout de même que tout hors la loi qu'il était, Jephté avait manifestement trouvé le moyen de ne pas négliger entièrement l'histoire d'Israël. Ce qui lui permet de révéler quelques qualités de chef et d'homme d'État. Des qualités qu'il peut ajouter à ses vertus indubitables de guerrier. En bon général, Jephté évite de se lancer tête baissée dans le combat. Il entame d'abord les négociations avec le roi des Ammonites, confiant qu'Israël est dans son bon droit en ce qui concernait le territoire revendiqué par les Ammonites. Vous vous rappelez, hein, c'est la tranche qui est juste à l'est du Jourdain, à peu près entre la mer Morte et la mer de Galilée, mais à l'est du Jourdain. C'est cette zone-là. Sa connaissance du Pentateuch, et notamment du livre des Nombres, au chapitre 21 et 24, où vous trouverez l'histoire qu'il résume dans les versets 12 à 28 du chapitre 11, eh bien, sa connaissance de ces passages lui donne le moyen d'aligner des arguments solides. À l'argument historique, ce territoire n'a jamais appartenu à Ammon, car c'était les Amorites qui l'occupaient, non pas les Ammonites. Il ajoute, ce Jephté, ce guerrier, ce hors-la-loi, il ajoute l'argument théologique, très astucieusement. C'est l'Éternel qui a donné en plus ce pays à Israël. Le préserver est donc carrément un devoir religieux, un acte de fidélité envers Dieu. Cet argument est particulièrement astucieux en ce qu'il rappelle aux Ammonites en même temps qu'il s'agit là du Dieu qui a donné l'histoire de la victoire à Israël sur de nombreux autres peuples. Que ces Ammonites ont donc intérêt à se rendre compte contre qui ils se mesurent. Pour la bonne mesure, Jephté ajoute les arguments du précédent historique et l'argument du silence. Historiquement, des rois autrement plus puissant peut-être que le roi actuel des Ammonites, comme Balak, par exemple, et pourtant Balak n'avait pas beaucoup d'affection pour Israël, eh bien n'ont pas contesté le droit d'Israël à ses terres. Et si cette région était vraiment aux Ammonites, comment se fait-il, dit Jephté pour conclure son argument, comment se fait-il que depuis 300 ans, voilà, il faut reconnaître que probablement Jephté arrondit un petit peu les chiffres, que depuis 300 ans, il n'ait rien dit ni rien fait pour le récupérer. Dans la suite du récit, vous voyez que le roi des Ammonites n'a rien à dire. Il n'a aucune réponse à apporter à Jephté, à ses arguments. Mais, hélas, quand le cœur est endurci, l'homme s'obstine dans sa mauvaise voie, même quand il sait qu'il a tort. Après ces négociations fondées sur l'histoire, eh bien, les Ammonites ne se retirent pas quand même. Et Jephté n'a plus d'autre choix que de rassembler ses troupes. Mais avant de considérer la bataille, la victoire, les défaites, il nous faut nous arrêter un instant sur ce recours à l'histoire de la part du juge. Nous comprenons par la suite que la connaissance que possède Jephté du Pentateuque, de la Torah, est bien imparfaite. Mais il est évident ici qu'il en sait assez pour être convaincu qu'il est de son devoir d'Israélite, de se battre pour préserver ce que Dieu a donné à son peuple. À nous, chrétiens aujourd'hui, Jephté nous donne aussi une leçon. Lorsque nous étudions, lorsque nous relisons et révisons les œuvres à la fois de création et de rédemption de notre Dieu, non seulement nous avons de plus en plus de matière pour alimenter notre prière et notre louange, mais nous reconnaissons avec encore plus de clarté l'héritage que notre Dieu nous a confié. Nous savons donc ce que nous devons défendre, préserver à tout prix, ce pourquoi nous serons prêts à mourir si nécessaire. En réalité, même l'histoire que Jephté raconte dans ce passage, qu'il explique au roi des Ammonites, est l'histoire du salut du peuple de Dieu. Regardez simplement, lorsque vous ferez cette lecture, les versets 21, 23, 24, 27, c'est l'histoire, pour nous autres chrétiens, rappelle de la même manière que c'est Dieu qui a donné la vie. Avoir les terres que Dieu a données à Israël, ça représentait la vie pour eux. Sans terre, ils n'avaient pas de vie. Et que, pour cette raison, nous avons le devoir, nous autres chrétiens, de garder, d'estimer cette vie, de la vivre comme Dieu veut qu'elle soit vécue. L'histoire dont Dieu seul est souverain maître nous enseigne aussi, que c'est seulement par l'action de Dieu en nous que nous pouvons préserver cet héritage. Cet héritage de vie en Jésus-Christ. Cette même histoire nous encourage, nous exhorte. Car ce qu'un Dieu immuable, Marc-Étienne nous l'a lu là tout à l'heure, ce qu'un Dieu immuable a fait dans le passé, il est évidemment capable de le faire encore aujourd'hui. Connaissez-vous, sœurs et frères, la citation si spirituelle du dramaturge britannique George Bernard Shaw au sujet de l'histoire? L'histoire nous apprend continuellement, prétend Monsieur Shaw, que l'homme n'apprend jamais rien de l'histoire. Cette citation spirituelle est peut-être vraie pour beaucoup d'hommes. Mais si c'est vrai pour le peuple de Dieu, alors c'est grave. Jephté connaît l'histoire donc suffisamment pour fonder sa vie sur la certitude que c'est l'Éternel qui la dirige. Il sait que c'est Dieu qui établit les frontières, qui donne la victoire ou la défaite. Et la foi en cette certitude suffit pour le pousser à s'engager. C'est Charles qui va nous lire ce passage. Juges 11, 29 à 33.
L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephté qui traversa Galate et Manassé. Il passa à Mitzpah de Galate et poussa jusqu'à chez les Ammonites. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit : si tu livres totalement entre mes mains les Ammonites, quiconque sortira des portes de ma maison à ma rencontre, un nouveau retour de chez les Ammonites, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Jephthé passa chez les Ammonites pour les combattre, l'Éternel les livra entre ses mains. Il les battit durement, depuis Aroer jusqu'à Minit, 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramim. Et les Ammonites furent humiliés devant les Israélites.
Merci beaucoup, Charles. Non, Jephthé ne s'est pas servi des négociations pour éviter de se battre, mais plutôt pour essayer d'épargner des vies humaines. Quand il n'y a plus d'autre solution, car le roi des Ammonites s'obstine, Jephthé sait mettre sa foi en action. Dieu le revêt de son Saint-Esprit. Le texte ne nous dit pas comment cela s'est manifesté. Mais nous pouvons supposer que Jephthé lui-même, et même ses proches, en étaient conscients. Et Jephthé devient un chef charismatique, au point que les peuples de cette région, descendants des tribus de Manassé, de Ruben et de Gad, reconnaissent le choix de Dieu et répondent à son appel. Après cela, le narrateur nous donne l'impression que la victoire sur Ammon, décrite sommairement en à peine deux versets, est une évidence, une formalité. Dieu avait choisi son juge, il l'avait équipé, résultat, Ammon est totalement vaincu. Chassé de tout le territoire qu'il revendiquait, c'est les indications géographiques qui nous l'indiquent, et Ammon restera tranquille, n'embêtera plus Israël pendant 50 ans, jusqu'à l'époque du roi Saül, où il commencera à revenir, à oublier la défaite du passé. Dieu a montré encore une fois qu'il est bel et bien le Dieu de l'histoire. Mais, Charles l'a lu, vous l'avez remarqué en passant, il y a une ombre, une grosse ombre. Jephthé a fait un vœu inconsidéré. Un vœu que Dieu ne lui demandait pas de faire. Un vœu inutile qui nous montre, entre autres, que le Saint-Esprit en Jephthé ne remplace pas sa propre intelligence, son propre caractère, sa propre capacité de décision. Ne pallie pas l'insuffisance de sa connaissance de la Torah. Et oui, Jephthé, qui semblait si bien fonder son action sur l'histoire de son peuple, soit ne connaît pas tout l'enseignement essentiel de la Torah, soit n'en tient pas compte. Si nous pouvons supposer qu'il ne connaissait peut-être pas Proverbes 20 et 25, c'est un piège pour un homme de dire à la légère « c'est sacré » et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu, car la rédaction des proverbes s'est faite sans doute une centaine d'années après la vie de Jephthé, après sa mort, quoique probablement une bonne partie de ces proverbes existaient sous forme orale bien des années avant leur rédaction. Il n'avait en tout cas aucune excuse en ce qui concerne l'enseignement de Deutéronome 18, versets 10 à 12. Qu'on ne trouve chez toi personne, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces horreurs que l'Éternel ton Dieu va déposséder ces nations devant toi. En faisant son vœu, Jephthé envisage manifestement un sacrifice humain. Car ce ne sont pas les animaux qui nous accueillent lorsque nous revenons de la bataille. Il envisage sans doute un de ses serviteurs ou une de ses servantes. Quoi qu'il en soit, sa foi qui est réelle, comme nous l'avons vu, n'est pas une foi éclairée par une adhésion inconditionnelle à la parole de Dieu. Le sacrifice humain ne faisait pas partie des traditions religieuses d'Israël, mais était pratiqué, par contre, au sein des nations environnantes. Entre autres, quelle ironie dans cette histoire, entre autres par les Ammonites. En pensant que l'Éternel a beau être le Dieu de l'histoire, il faut tout de même l'encourager un peu pour qu'il agisse en notre faveur, Jephté pratique le syncrétisme. Mélangeons un peu de superstition païenne à sa foi biblique. Or, tout syncrétisme est une infidélité à notre Dieu. Que nous pratiquons peut-être nous-mêmes, parfois, sans nous en apercevoir, en remplaçant une obéissance simple à la parole par des techniques et méthodes bien humaines. En copiant les recettes des humanistes ou en imitant des pratiques qui proviennent de religions orientales. Toute infidélité à Dieu est drôlement dangereuse. Comme nous reprenons notre lecture, grâce à Lucas, c'est hélas l'ombre du syncrétisme, de la méthode humaine qui plane. Chapitre 11, versets 34 à 40. Merci Lucas.
Jephté revint dans sa maison à Mitzpah, et voici que sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant, à part cela, il n'avait ni fils ni fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit : Ah, ma fille, tu m'accables, tu m'ombres de ceux qui m'affligent. J'ai trop ouvert la bouche devant l'Éternel, et je ne puis revenir en arrière. Elle lui dit : Mon père, tu as trop ouvert la bouche devant l'Éternel. Agis envers moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, les Ammonites. Et elle dit à son père : Que ceci me soit accordé. Laisse-moi un délai de 2 mois, je m'en irai, j'irai dans la montagne et je pleurerai sur ma virginité avec mes amis. Il répondit : Va, et il la congédia pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses amis et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout des 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait pas connu d'homme, dès lors s'établit en Israël cette règle. Chaque année, les filles d'Israël sont célébrées la fille de Jephté, le Galaadite, 4 jours par an.
Merci Lucas. Je ne sais pas si un metteur en scène a déjà produit un film dont le scénario serait basé sur le livre des Juges. Mais si c'était le cas, et si nous venions de visionner cette scène au lieu de la lire, j'ai bien l'impression que nous serions tous en larmes. Pour Jephté, ses larmes seraient provoquées par la pitié, certes, mais aussi par la frustration, la colère. Pour la fille de Jephté, les larmes couleraient à cause de sa noblesse, à cause de son intelligence, à cause de son don d'elle-même, de sa soumission inconditionnelle à son père, malgré cette aspiration si forte à assumer pleinement sa vocation d'épouse et de mère. Quelle perte pour Jephté! Quelle souffrance il devait y avoir, imaginez un peu, dans ses relations avec son épouse à partir de ce jour-là. Essayez d'imaginer. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu nous laisse ce triste épilogue d'une si belle victoire? D'une victoire si complète sur les Ammonites, ses frères traîtres d'Israël. C'est certainement parce que Dieu veut que nous réfléchissions. Dieu veut que nous grandissions dans notre connaissance de lui, notre relation avec lui, notre Père céleste. Il nous donne ainsi à la fois, dans Jephthé lui-même et dans sa fille, des exemples de foi remarquables. Jephthé a oublié sans doute Deutéronome 18-10 que je vous ai lu, mais il semble qu'il connaissait Nombre 30, verset 3. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Vrai homme de parole et de foi, il va jusqu'au bout de son engagement. Au risque de sa vie dans la bataille, au risque de sa descendance dans l'accomplissement de son vœu. Il est prêt à tout perdre au service de l'Éternel. Quant à sa fille, qui se réjouit si spontanément de la victoire de son père et de son peuple, et qui fait preuve d'une vive intuition. Elle nous est un modèle de la subordination de ses propres intérêts à ceux des autres, aux intérêts de son peuple, nous montrant également qu'elle comprend qu'il y a un prix à payer si l'on veut suivre le chemin de la foi. Et glorifier Dieu. Même sa requête et son deuil ont de quoi nous faire réfléchir. Elle pleure non pas sa mort prochaine, mais le fait qu'elle va mourir vierge, sans avoir pu accomplir sa vocation de femme et de mère. Il y a là une pensée qui choquerait la pensée politiquement correcte du XXIe siècle, mais qui doit nourrir la réflexion des chrétiens que nous sommes. Nous pouvons assurément conclure que la raison essentielle de la présence de cet incident dans la parole de Dieu, c'est que Dieu veut nous avertir que, pour bien le connaître, nous avons besoin de connaître toute sa parole. Pas seulement une partie. Afin d'éviter d'ajouter à sa révélation des idées tirées d'ailleurs, tirées des mensonges de l'ennemi en réalité. Afin que nous puissions fuir toute forme de syncrétisme. Dieu veut certes que nous agissions selon une foi plus éclairée que celle de Jephthé. Mais n'oublions pas qu'en inscrivant son nom, le nom de Jephthé, parmi les héros de la foi, au 11e chapitre de l'Épître aux Hébreux, il nous lance en même temps un grand défi. « Et vous, nous dit-il, vous, mon peuple de la Nouvelle Alliance, est-ce que votre temps, votre argent, vos dons, votre vie sont engagés au service de Dieu trois fois saint avec une fidélité, une ferveur et une abnégation comparables à celle de Jephthé, héros de la foi. Dieu veut également que nous soyons responsables, que nous comprenions que les résultats peuvent être désastreux lorsque nous introduisons des traditions humaines si éloignées de la pensée de Dieu dans notre pratique de la foi. Jephthé a permis aux pratiques païennes de pénétrer dans sa foi publique, alors qu'il aurait pu, même à son époque, il aurait pu confronter Nombre 33 à Deutéronome 18-10, en comprenant que le deuxième passage l'emporte sur le premier. Mais avant de jeter la pierre à Jephté, demandons-nous s'il ne nous arrive pas de laisser des traditions de notre environnement influer sur notre écoute de la parole. Par exemple, lorsqu'il s'agit de dénoncer l'injustice, ce que Dieu nous demande de faire, est-ce que nous le faisons régulièrement, comme la parole nous y invite? Et lorsque nous le faisons, est-ce que nous tenons compte de la méthode clairement indiquée en Matthieu 18 et des versets 15 à 17? Revenez à la parole, nous dit l'histoire de Jephté. Méfiez-vous de votre environnement, avec ses traditions et avec ses habitudes. Mais, chers amis, hélas, la tragédie n'est pas terminée. Nous avons connu une victoire ainsi qu'une défaite tragique. Mais la suite du passage, la fin du passage, nous donne un dernier volet. Un volet tout aussi tragique. Jean, est-ce que tu as ta Bible? Jean n'est pas disponible. Si? Oui? Tu peux lire? Oui? Chapitre 12 et versets 1 à 7. Jusqu'au verset 7, jusqu'à la fin de l'incident.
Jephté rassembla les hommes de Galaad et livra bataille à Éphraïm. Les hommes de Galaad battirent Éphraïm parce que les Éphraïmites disaient « Vous êtes des fugitifs d'Éphraïm ». Galaad est au milieu d'Éphraïm, au milieu de Manassé. Galaad s'empara des guets du Jourdain du côté d'Éphraïm. Et quand un des fuyards d'Éphraïm disait « Laisse-moi passer », les hommes de Galaad lui demandaient « Es-tu Éphraïmite ?» Il répondit « Non, il lui disait alors, eh bien, dis Shibboleth. Et il disait Shibboleth, car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galaad le saisissaient et l'égorgeaient près des guets du Jourdain. Il périt en ce jour-là 42 000 hommes d'Éphraïm. Jephté fut juge en Israël pendant 6 ans. Puis Jephté le Galaadite mourut et fut enterré dans le milieu de Galaad.
Qu'est-ce que nous pouvons dire face à une telle tragédie? Comment supporter cette guerre fratricide au milieu d'Israël, une guerre civile? Cette guerre qui crée donc une séparation parmi les différentes tribus d'Israël et qui va provoquer un effritement final bien des années plus tard. Cette guerre qui n'encourage pas la fraternité et l'entraide que Dieu voulait. Comme ce fut le cas pour Jephté prononçant son vœu, combien nous aurions aimé que les Éphraïmites connaissent les proverbes. Celui qui a de vastes ambitions excite les querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est dans l'abondance. Ou encore l'orgueil précède le désastre et un esprit arrogant précède la chute. Quant à Jephté, il aurait bien fait de mieux étudier l'exemple d'un autre juge, Gédéon, au chapitre 8, versets 1 à 3, où les Éphraïmites ont fait la même chose en se trouvant exclus des honneurs. Sans parler là aussi des proverbes qui auraient pu être instructifs pour Jephté comme pour les Éphraïmites. Une réponse douce, calme la fureur. Mais une parole blessante excite la colère. Cette deuxième défaite On se demande si l'armée de Jephté finalement n'aura pas tué plus d'hommes d'Éphraïm que d'Ammonites. Cette deuxième défaite est remplie d'informations, d'enseignements ou avertissements. Elle nous montre d'abord que les Lévites, ces guides spirituels en Israël, sont aussi absents quand il s'agit de faire la paix que quand il s'agit de préciser quel type de sacrifice de Dieu autorise et agrée. Aucun Lévite pour instruire Jephté, aucun Lévite pour instruire ces hommes d'Éphraïm. Où sont les hommes de Dieu? Les conseillers humbles et les artisans de paix brillent par leur absence. Et Dieu nous rappelle certainement, à nous aujourd'hui, par ce massacre, il s'agit bien d'un massacre, combien le principe de la communion fraternelle et du conseil mutuel fait partie intégrante de la foi de son peuple et de la vie de son peuple. Combien également tout individualisme est dangereux. Eh oui, les Éphraïmites qui voulaient être les chefs, la plus grande tribu du Nord, eh bien, ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent pas au peuple ni à la gloire de l'Éternel. L'attitude d'Éphraïm qui veut la gloire, le statut personnel encore plus que le bien du peuple entier ou la gloire de l'Éternel est à contraster dans ce récit. Évidemment, vous y avez pensé, je pense, est à contraster avec l'attitude de la fille de Jephté, qui, elle, nous pousse à regarder en direction de Jésus-Christ lui-même, car elle est prête à donner sa vie comme prix pour la victoire de son peuple. La couleur qui est donnée à ce récit par ce fameux mot de passe, Shibboleth, qui aurait pu être un élément un peu humoristique dans un autre contexte. Hein, c'est un peu comme si on demandait à un Marseillais de dire « Donnez-moi du pain ». Ou « Oui, c'est certainement jaune ». Ou encore à un Auvergnat de dire « Mangez ». Mais ce qui aurait pu être humoristique ne sert ici, hélas, qu'à confirmer la triste réalité de cette fissure au sein du peuple de Dieu. Oui, cette fin d'histoire est terrible. Nous enseignons certainement que le déclin d'Israël continue à cette époque. Au point que même lorsque Dieu lui donne la victoire, la défaite n'est jamais très loin. Nous ne devons pas oublier cependant, en concluant, que ce récit fait partie de la parole de Dieu. Nous est donc donné pour notre instruction. Ce récit nous encourage à nous engager avec foi, mais aussi à fonder cette foi sur la Bible et à fuir tout syncrétisme. Il nous encourage à connaître le Dieu de l'histoire à fond et à placer les intérêts de Dieu et de son peuple au-dessus de nos intérêts à nous. Il nous appelle à l'humilité, en dirigeant notre regard une fois de plus vers le seul juge parfait. Car le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous sommes émerveillé devant une foi aussi vigoureuse, aussi droite que celle de Jephté, que celle de sa fille. Et en même temps, Seigneur, nous sommes profondément attristés par le manque de lumière, par le refus d'une fidélité à ta parole, par l'oubli de ta parole qui coûte si cher. Seigneur, nous savons que ton peuple est souvent écarté par les exigences de son temps, par les exigences de son environnement. Et nous avons du mal à consacrer le temps qu'il faudrait à l'étude de ta parole. Nous avons du mal à réfléchir jour après jour à sa mise en pratique. Mais notre prière, Seigneur, c'est que tu puisses nous garder de nous en écarter, de nous écarter de ta parole. Que tu augmentes notre foi afin qu'elle soit solide. Que tu nous éclaires. Et Seigneur, que les hommes qui, comme les Lévites, étaient appelés à instruire le peuple, ne s'éloignent pas. Mais qu'ils soient là pour instruire, pour exhorter, pour conseiller, afin que ton peuple marche de manière à te glorifier, en suivant l'exemple du juge parfait, Jésus-Christ. En ton nom, Seigneur, nous prions. Amen. Thank you.